Bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous accorde ce que votre cœur désire selon sa volonté. Amen. Je vais vous faire une lecture dans Jean chapitre 3, verset 15. On peut déjà commencer au verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Vous savez pourquoi on dit le Fils de l'homme? Parce qu'il est le fils de Adam. Tous les hommes, tous les gens ne sont pas fils de Adam. Vous savez ça? Il y en a qui sont de la descendance de Ève. Vous savez ça? Tous les gens descendent de Ève, mais tous les gens ne descendent pas de Adam. Il y a deux lignées. Il y a la lignée de Caïn et Jésus, lui, il est le second Adam. Donc voilà, je recommence. Il faut de même que le Fils de l'homme, donc Jésus, soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'ai remarqué que tous les prédicateurs de l'Évangile, et moi aussi dans le lot, on parle toujours de la vie éternelle, mais ce matin je voudrais vous en dire davantage sur ce que Dieu entend par recevoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Comment peut-on recevoir quelque chose qui n'a ni commencement ni fin? Nous allons y réfléchir avec l'aide de Dieu. Le premier but dans le plan de Dieu, c'est que chacun de nous vienne sur terre pour obtenir un corps physique. Et ensuite, après la mort et la résurrection, notre esprit et le corps ressuscité sont assemblés et c'est là qu'ils sont immortels. Le corps devient immortel. Notre esprit est éternel. Notre corps a été créé, c'est lui qui reçoit l'éternité. L'être que nous sommes là dans ce corps. Cela, c'est le don gratuit pour tout être, toute âme vivante. Et Paul l'a très très bien dit, il dit « Et comme tous meurent en Adam, de même, tous aussi revivront en Christ. » 1 Corinthiens 15, 22. Alors le plus important, c'est quoi? Eh bien, c'est de vivre, non pas le plus longtemps possible, ici-bas sur cette terre. Je vous dis, frères et sœurs, non, c'est pas ça le principal. Plus vite je pourrais arriver à l'endroit où je serai actif pour faire les choses qui donneront à Dieu et qui me donneront à moi une joie éternelle, mieux ça sera. Ici, on est dans la limitation. Mais pour qui est-ce que ça sera le mieux? L'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain, c'est un gain pour lui, c'est un gain pour moi aussi si je m'en vais vers le Seigneur. Mais pour qui est-ce que ça sera mieux? Pour qui ça sera un gain? Pour Dieu, pour moi et pour les autres. On va y venir. Si vous menez une vie digne d'entrer dans la présence de Dieu, il n'y a aucun problème. Nous avons tous entendu parler de la promesse et de la possibilité de la vie éternelle avant le début du monde. La vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Ça, c'est Tite qui le dit. Tite 1, 2. Nous avons entendu parler de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. J'ai souvent parlé de Éphésiens 1, 3, 4, mais laissez-moi vous ouvrir une nouvelle vision de ce texte sacré. Je vous le dis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous étions déjà en Christ avant la fondation du monde et c'est là qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Verset 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous étions en lui avant la fondation du monde. Et en Christ, avant la fondation du monde, nous avons été bénis. Puis, au verset 5, nous avons été prédestinés à recevoir la rédemption par son sang. Au verset 7, pourquoi est-ce que nous avions besoin de sa rédemption, du rachat, puisque nous étions en lui avant la fondation du monde? C'est là tout le mystère. Je vous explique, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur m'a donné. Nous étions en Christ. Vous vous rappelez, dernièrement, je vous ai parlé de Lévi qui était en Abraham. Et l'apôtre dit que Lévi a donné à Melchisédek la dîme, parce que Lévi était en Abraham. C'est comme si c'était Lévi qui donnait à Melchisédek. Vous vous rappelez de ça? C'était quand même Abraham qui a donné à Melchisédek la dîme. Mais comme Lévi était en Abraham, lorsque Abraham a donné la dîme à Melchisédek, eh bien Lévi, Dieu considère que Lévi existait en Abraham. Puis ensuite, longtemps après, Lévi est sorti d'Abraham, bien longtemps après, hein, dans la descendance. Eh bien, de même, nous aussi, nous sommes sortis de Christ, nous étions en Christ avant la fondation du monde, nous avons été élus, et nous sommes sortis de Christ pour venir dans ce monde, dans un but, celui de recevoir la vie éternelle avec un corps. Je crois dans la résurrection des corps. Maintenant, quand la Bible dit que Lévi donna la dîme à Melchisédek, il la donna par Abraham, parce que lui, Lévi, n'existait pas encore sur terre. Il n'avait pas de corps. Eh bien, de même, nous avons été bénis en Christ avant la fondation du monde et nous n'avions pas encore de corps. Nous étions en Christ, mais sans corps. Il a fallu que nous naissions ici-bas pour recevoir un corps. Sinon, nous serions restés en Christ éternellement sans être des personnes distinctes. Nous sommes des êtres distincts maintenant. Quand l'esprit a été mis dans le corps que Dieu avait fabriqué, le corps d'Adam, quand l'esprit est venu dans ce corps, c'est devenu un être vivant, c'est-à-dire une âme, un être, quelqu'un de distinct. Eh bien, il en est de même pour nous. Quand notre esprit entre dans le petit corps qui vient au monde, nous devenons un être distinct. Alors nous sommes venus sur terre avec une promesse, la vie éternelle, Tite 1, 2. Et nous sommes venus avec une bénédiction spéciale donnée avant la fondation du monde, Éphésiens 1. Alors Paul y croyait toutes ces choses, et il en parle très librement, tellement librement que finalement c'est un peu dilué dans tout le texte, parce que la plupart des lettres qu'il écrivait, c'était pour mettre en ordre des problèmes qu'il y avait dans l'Église, et alors il ne s'étend pas sur des choses profondes, il parle beaucoup de morale, et d'ordre, et de ceci, de cela, c'est dommage, parce que on voit dans le texte qu'il croyait ces choses-là. Mais les hommes et les femmes, au cours des siècles, ont perdu de vue toutes ces choses, ça a été oublié. Mais elles sont désormais rétablies. Alors, enrichi de cette connaissance, rétablie, écoutez ce que Paul écrivait. Écoutez maintenant avec ce que vous avez compris. Écoutez comment Paul parlait dans 2 Thessaloniciens 2.13. Il dit, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Vous voyez ? Il vous a choisi dès le commencement, avant. Il nous a choisi, il dit, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Verset 13. C'est 2 Thessaloniciens 2, 13. Et c'est à cela que vous êtes appelés. À quoi ? Au salut. Comment ? Par la mise à part du Saint-Esprit, c'est-à-dire ça c'est la part de Dieu, c'est Dieu qui nous met à part, le Saint-Esprit nous met à part pour le salut, et deuxièmement par notre foi en la vérité, ça c'est notre part, avoir la foi en la vérité. Et quand nous avons la foi dans la vérité, nous nous qualifions. Le but, il est donné au verset 14, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire pour que nous soyons comme lui, comme il est, avec un corps. Alors des esprits nobles ont été choisis pour diriger les hommes. Ils faisaient partie des enfants de Dieu dans la préexistence. Par exemple, il y avait Jérémie 1, 4, 5, où il est dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations. » Vous voyez ? Tout ça s'est prédestiné, tout ça s'est arrangé. Et puis il n'y avait pas que Jérémie dans ce cas-là. Tous, Adam, Seth, Enoch, Noé, Abraham, Jacob, toute la lignée, tous les autres fils de l'homme, tous les autres fils d'Adam, et nous avec. Nous avons donc été élus en Christ pour venir dans la condition mortelle, dans la condition dans laquelle nous sommes. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour recevoir des bénédictions supplémentaires. Parce que nous étions déjà bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais nous avions besoin de quelque chose de supplémentaire. Notre vie mortelle est conçue en partie pour que nous recevions un corps physique de chair et d'os, comme c'est décrit dans Genèse 2:7, excusez-moi, et je vous ai parlé de ça il n'y a pas longtemps au sujet du corps, d'os et de chair, et puis ensuite de chair et de sang. Bon, alors, dans notre préexistence, Dieu nous a donné des commandements et une chance de nous montrer dignes dans une mise à l'épreuve mortelle. Nous avons la possibilité d'opter pour les ordonnances éternelles du salut. Et ceux qui cherchent les bénédictions de Dieu gardent ses commandements, n'est-ce pas écrit? Et ils se conforment à ses ordonnances, n'est-ce pas écrit? Et c'est comme ça qu'ils affermissent leur vocation et leur élection. J'invente rien. C'est Pierre qui nous le dit. 2 Pierre 1:10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est deux choses. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ah! Cet évangile simpliste qui nous dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Ah oui, 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 ça c'est vrai. Mais croire implique tout cela. Pas simplement croire, mais aussi obéir aux commandements et observer toutes ces ordonnances afin d'affermir notre vocation et notre élection. Comprenez-vous? Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Sinon, non, non. Sinon, non, non. Le diable aussi y croit, ça ne suffit pas. Comment l'entrée nous sera-t-elle pleinement accordée? Si nous affermissons notre vocation et notre élection, pas autrement. Et comment est-ce que nous affermissons notre vocation et notre élection? En gardant ses commandements et en nous conformant à ses ordonnances. Ce sont deux choses. Il ne faut pas mélanger. Les commandements sont les lois morales de Dieu. Mais il y a aussi autre chose, il y a ce qu'il ordonne. Il y a le baptême, il y a le lavage des pieds, il y a la Sainte Cène, il y a le baptême pour les morts, il y a le scellement des familles, toutes ces choses. Tout cela, ce sont des ordonnances. Ce sont elles, principalement, qui sont rétablies de nos jours. Vous comprenez? Comment affermissons-nous notre vocation et notre élection? 1. En gardant ses commandements. 2. En nous conformant à ses ordonnances, en pratiquant, en faisant ce que nous devons faire. Vous voyez que l'affermissement de notre vocation et de notre élection, c'est une quête importante dans la condition mortelle dans laquelle nous sommes encore, vous et moi nous y sommes encore, nous sommes là sur cette terre. Les élus de Dieu sont ceux qui écoutent sa voix et qui lui obéissent. Il ne dit pas, si vous prenez la Sainte Cène, vous aurez la vie éternelle. Il dit, si vous mangez mon corps et vous buvez mon sang, vous avez la vie. C'est-à-dire, vous prouvez par là que vous avez la vie. Parce que vous observez cette ordonnance, ce renouvellement d'alliance. Mais il n'y a pas que cette ordonnance dans la Bible. Les élus de Dieu sont ceux qui écoutent sa voix et qui obéissent aux commandements et aux ordonnances. Mes frères et sœurs, vous êtes appelés à réaliser le rassemblement des élus de Dieu parce que les élus de Dieu entendent sa voix et n'endurcissent pas leur cœur. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur, l'heure est proche. Et le jour est bientôt là, où la terre sera mûre, et tous les orgueilleux, et tous ceux qui pratiquent la méchanceté, seront comme du chaume, et je les brûlerai, dit le Seigneur, parce que pour que la méchanceté ne soit plus sur la terre. Mes frères et sœurs, pour affermir votre vocation, pour affermir votre élection, vous devez faire preuve de diligence et d'effort pour acquérir les qualités divines. Des efforts. Ça, c'est au sujet des commandements. Souvenez-vous de 2 Pierre 1, 5, 7. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Votre foi n'est pas suffisante. Pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu à la science à la tempérance la patience, à la patience à la piété l'amour fraternel et l'amour qui viendra chapeauter tout cela. Ah, les chrétiens veulent aimer, oui, mais ils veulent aimer sans vertu, sans science, sans tempérance, sans patience, sans piété, sans amour fraternel. Ils veulent aimer. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Gna 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 gna. Ils devancent toutes les étapes. Et à la première occasion, quelque chose qui vous plaît pas, eh ben, il vous laisse tomber. Alors, ne vous trompez pas de combat. Combattez le bon combat. Achevez la course. Gardez la foi. Paul l'a fait, 2 Timothée 4, 7. Et Jésus disait, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Ils veulent bien, mais ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils mélangent tout. Parce qu'ils veulent aimer, 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 aimer. Ah, ils veulent aimer, ils veulent aimer, aimer. Ils n'ont pas de piété. Ils n'ont pas de science. Ils n'ont pas de patience, ils n'ont pas de vertu. C'est-à-dire, ils n'ont pas de force, ils n'ont rien. Et ils veulent aimer. Ils ne peuvent pas. Et ils pensent que parce que j'agis comme j'agis, c'est parce que je n'aime pas. Mais c'est faux. C'est faux. Jésus aimait tout le monde. Mais il s'est quand même mis en colère contre ses disciples qui voulaient pas, qui n'y comprenaient rien et il s'est quand même mis en colère aussi dans le temple avec les religieux. Il a dit, combien de temps est-ce que vous supporterez? Il a dit à ses disciples, il en avait marre des moments. Ne vous trompez pas de combat. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. On a des efforts à faire et nous avons de l'intelligence à manifester. Ne pas se tromper de combat. Nous n'avons pas à lutter contre des gens. Laissez les gens vous accuser, laissez les gens vous condamner, laissez les gens vous prononcer des sentences de mort contre vous. Ça ne vaut rien. C'est du pipeau, c'est du pipi de chat, ça vaut rien du tout. Rien, leurs condamnations ne valent rien. Vous savez ce que j'ai fait, et beaucoup d'autres, nous avons prêché l'évangile et tous ceux qui l'ont entendu ont été appelés. Mais ils n'étaient pas forcément des élus. Matthieu 22, 11, 14. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oh, on appelle, ah oui, là, on a prêché, puis il y a plein de gens, voilà, enfin, ils se sentent appelés, alors ils suivent un moment, puis après c'est fini, parce qu'ils ne sont pas des élus, ils sont juste des appelés. Comment est-ce qu'on reconnaît un élu? Alors, c'était difficile encore il y a quelques années en arrière, mais maintenant la moisson est tellement mûre, ça devient de plus en plus facile de discerner qui sont les élus. Avant, on pouvait confondre l'ivraie et le bon grain encore, ça se ressemblait. Mais maintenant, le fruit, il est mûr. Maintenant, on y voit plus clair. Voici, les élus comprennent que les droits de la prêtrise et leurs devoirs sont inséparablement liés au pouvoir du ciel. Et les élus savent que les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes de justice. Et que les cieux se retirent lorsqu'ils prononcent leur malédiction. Parce que nous sommes dans la bonne nouvelle. Il n'y a pas de jugement maintenant. Ils sont plus forts que Jésus. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour vous juger. Eux, ils jugent. Et non seulement ils jugent, mais ils condamnent. Les élus savent que les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes de la justice. Et les cieux se retirent lorsqu'ils prononcent leur malédiction. Les cieux se retirent parce que le Saint-Esprit est attristé. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé et qu'il se retire, c'est la fin de la prêtrise ou de l'autorité de cet homme ou de cette femme. C'est la fin. À moins d'une repentance. Un appelé n'est pas forcément un élu. Un appelé se focalise sur les commandements, sur les lois morales, et encore. Mais un appelé n'accomplit pas son sacerdoce. Il était baptisé, il prend la Sainte Cène, il pense que c'est bon. Il ne manifeste rien de la prêtrise. Il ne se sent pas concerné. Vous savez ce qu'ils sont en fait? Ils sont les chrétiens d'Éphèse qui vivent dans l'âge de Smyrne.
Ils sont les chrétiens de Smyrne qui vivent dans l'âge de Pergame. Ils sont les gens de Pergame qui vivent dans l'âge de Thyatire. Ils sont les chrétiens de Thyatire qui vivent dans l'âge de Sardes. Ils sont les chrétiens de Sardes qui vivent dans l'âge de Philadelphie. Ils sont à côté de la plaque, ils s'en rendent même pas compte. Ils ont une forme de spiritualité, mais ce n'est pas la bonne, c'est la vieille. C'est la vieille manne. C'est pas qu'elle est mauvaise. Mais rappelez-vous, quand le grain est semé, d'abord ça donne une tige, et puis après ça donne des feuilles, et puis après ça donne un épi, et puis cet épi, sur cet épi, il y a le grain, mais le grain il est encore enveloppé par la balle. Et qu'est-ce qu'on garde? On garde pas l'épi, on garde pas la tige, on la fout au feu. Les feuilles, on les fout au feu. Même la balle, on la fout au feu. Qu'est-ce qu'on garde? Le grain. Qu'est-ce qu'ils sont? Tiges, chaumes, machin. En fait, ils sont les parfaits laodicéens qui ne veulent pas acheter de Dieu l'or de la parole éprouvée par le feu. Ah non, non, j'ai tout, j'ai pas besoin de ça, c'est faux ça. Ils sont des parfaits laodicéens qui ne veulent pas acheter de Dieu les vêtements blancs qui couvriraient leur nudité, c'est-à-dire, qui, comme je dis toujours, en Burkina, enfin en Afrique, très souvent j'ai vu des bonhommes ou des bonnes femmes toutes nues qui se promenaient dans la rue. La première fois j'étais surpris, j'ai dit à Nicolas, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, ben c'est un fou. Et les fous, on les laisse se promener tout nus comme ça. Et la Bible dit que dans Apocalypse 3, là, au sujet de la Odyssée, ils sont pauvres, misérables, aveugles et nus. Ils sont nus, ils ne savent même pas, ils sont fous. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont ridicules. Mais c'est épouvantable. Moi, j'ai arrêté ça. Parce que pendant un temps, j'allais sur YouTube pour regarder les vidéos que les chrétiens balancent là-dessus. Mais c'est épouvantable. Mais c'est épouvantable, de la folie furieuse. De la folie furieuse. Et ils sont ces parfaits laodicéens qui veulent pas acheter un collier pour oindre leurs yeux. Ils voient tout trouble, tout faux. Ils sont infectés. Leurs yeux sont infectés. Ils voient, mais c'est pas juste. Et puis, la chose terrible, c'est que Dieu les châtie même pas. Parce que Dieu ne châtie que ceux qu'il aime. Ils sont aveuglés par l'orgueil, dû à leur prétendue révélation à 2 balles qu'ils ont été volés sur Internet. La plupart du temps. Mais nous, frères et sœurs, nous nous savons pauvres, nous savons que nous avons nos limitations, nous les connaissons, et c'est pourquoi nous recherchons les richesses d'en haut. Vous voyez, ça fait depuis 77 qu'on vit en communauté, on se connaît, vous connaissez mes fautes, vous connaissez mes faiblesses, vous connaissez tout ça. Dieu me fait grâce, et vous me faites grâce. Ceux qui ne me font pas grâce, c'est quoi ça? Car la vie éternelle, c'est le plus beau des cadeaux de Dieu. Nous sommes de ceux qui sont fidèles et diligents. Nous sommes cohéritiers du Christ. Nous hériterons de tout ce que le Père possède. C'est ce que Paul dit aux Romains chapitre 8, verset 17. Parce que nous souffrons avec lui. On souffre quoi? On souffre parce que... c'est quoi qui nous fait souffrir? La bêtise, la folie, l'aveuglement des appelés. C'est ça qui nous fait souffrir. Ça ne fait pas souffrir de quitter le château. Je n'ai jamais quitté quelque chose pour avoir moins bien. Nous aurons beaucoup mieux. Ce n'est pas une souffrance. La vraie souffrance, c'est de voir cette dureté de cœur, cette bêtise, cette méchanceté, ce désir de nous voir punis, châtiés, tués. Parce que ça, c'est leur désir. Ils mettent ça sous le couvert d'une prophétie. Mais c'est ce qu'ils désirent dans leur cœur. C'est affreux. Et nous nous assierons avec Jésus sur son trône, car nous sommes vainqueurs comme il était, lui-même vainqueur. Apocalypse 3, 21. Frères et sœurs bien-aimés, vous n'êtes pas des parjures. Vous n'abandonnez ni Dieu, ni vos amis. Vos amis, ce sont ceux qui font la volonté de votre Père. C'est-à-dire qui obéissent aux commandements, l'ordre moral et toutes ces choses-là, et aux ordonnances, le baptême, les renouvellements d'alliance, le baptême pour les morts, le scellement des familles, tout ça. Pratiquons avec foi, pratiquons justement, c'est-à-dire avec justice. Gardons-nous du séducteur, même s'il est juif. L'Antichrist sera juif. Ne soyons pas impressionnés parce que ce sont des juifs. Il y a de très mauvais juifs. Le monde en regorge. Et Dieu dit, c'est pas parce que vous êtes un peuple meilleur, loin de là. Alors, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Gardons-nous du séducteur, même s'il est juif, et nous demeurerons pour toujours et à jamais dans la présence de notre Dieu, notre Père Céleste et de son Fils. Amen. Jésus veuille aider chacun et chacune à se rendre compte de là où il est et donne à celui ou à celle qui a besoin de repentance, la repentance dont il a besoin, afin de se détourner de ses mauvaises voies et de revenir à la raison spirituelle, celle de ton Saint-Esprit. Merci de nous fortifier, de nous bénir, de nous conduire, que ton nom soit glorifié. Merci parce que nous souffrons, c'est un temps difficile parce que c'est un temps de souffrance, mais nous acceptons que ce temps soit long parce que c'est un temps aussi durant lequel ceux qui nous persécutent peuvent se repentir. Merci mon Dieu de leur donner ce temps. Que ton nom soit béni mon Dieu. Amen. Amen.